pas de larmes, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer en toute légalité. Ce que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée. J'en ai perdu les années, mais j'ai conservé ma fierté. Au pays des droits de l'homme, il n'y a pas d'égalité.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. Au cours de cette émission, j'explore avec mon invité l'actualité des libertés publiques et de la mise en application de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui compte aujourd'hui 46 signataires. À Strasbourg se trouve un des barreaux les plus actifs dans le domaine et, depuis 1959, la Cour européenne des droits de l'homme. Mon invité aujourd'hui est un avocat spécialisé en droit international et droit européen des droits de l'homme et expert auprès du Conseil de l'Europe. Il est engagé dans la mission de défense, de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme en France et à l'étranger. Maître Julien Martin, bonjour.
Bonjour Joy.
Comment en êtes-vous venu à vous spécialiser dans les droits de l'homme et le droit des étrangers ?
Alors, ça n'a pas été un réflexe dans l'immédiat, mais je me suis toujours beaucoup intéressé aux libertés fondamentales, aux libertés publiques. D'ailleurs, tout avocat s'y intéresse et exerce dans ce domaine par essence en étant soi-même avocat. Mais après 4 ans d'exercice professionnel, j'ai repris des études en droit européen des droits de l'homme tout en étant avocat. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de faire un stage, une visite d'études plus exactement, à la Cour européenne des droits de l'homme et passer des concours de juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Quelques missions également à l'étranger, au Bénin, au Cameroun, avec des confrères qui étaient déjà très impliqués dans ce domaine. Et depuis, bien, c'est devenu à la fois, bien sûr, mon activité principale, mais c'est toujours une passion.
Vous êtes également expert auprès du Conseil de l'Europe. Comment devient-on expert et comment décrivez-vous cette fonction ?
Alors, c'est une fonction qui est particulière. Pour devenir expert au Conseil de l'Europe, il faut postuler à des offres du Conseil de l'Europe. D'abord, être professionnel du droit, exercer dans des domaines qui sont relatifs aux droits de l'homme et donc naturellement en qualité d'avocat. Et avec cette expérience que j'avais déjà sur le terrain, tant devant les juridictions nationales françaises qu'à l'étranger également, j'ai proposé d'intervenir au sujet d'une formation au Maroc avec le Conseil de l'Europe, une formation aux magistrats du Maroc sur le droit au procès équitable. Donc en postulant à cette mission et en me formant au préalable auprès du Conseil de l'Europe, auprès d'un programme qui s'appelle le Human Rights Education for Legal Professionals, j'ai pu devenir progressivement expert auprès du Conseil de l'Europe.
Ok. Vous formez des juristes dans le domaine des droits de l'homme. D'après vous, quel est le niveau de familiarité des professionnels du droit avec cette matière ?
Alors, il y a depuis, je pense, une bonne dizaine d'années, de plus en plus de familiarité avec les droits de l'homme. D'abord au niveau des magistrats qui sont de plus en plus formés dans ce domaine, et en particulier sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Il me semble, hein, sauf erreur de ma part, qu'à l'École nationale de la magistrature, il y a une véritable formation dans ce domaine. Et puis, pour les avocats aussi, de plus en plus familiarisés avec la notion notamment de procès équitable. On a mené de nombreux combat pour notamment aboutir à une réforme de l'intervention de l'avocat en garde à vue. Une loi donc qui est intervenue après une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme de la Turquie, un arrêt Saldus contre Turquie de 2007 et qui a abouti à la réforme de l'intervention de l'avocat en garde à vue en 2010. Et je crois que tout ceci participe au mouvement de familiarisation des professionnels à invoquer la Convention européenne des droits de l'homme, notamment devant et surtout devant les juridictions nationales.
Et qu'en est-il du grand public ?
Pour le grand public, c'est un peu plus compliqué. Alors, concernant la Cour européenne des droits de l'homme et le droit européen des droits de l'homme en particulier, il y a un site, le site de la Cour, hein, qui participe à l'information au public grandement. Hein, l'unité de la presse à la Cour européenne des droits de l'homme fait un travail d'ailleurs remarquable à ce niveau d'information du public. qu'il s'agisse des journalistes ou tout simplement des lecteurs et des citoyens. Et donc, il y a cette information-là. Mais encore faut-il aller la chercher, à être soi-même sensibilisé. Malheureusement, aujourd'hui, le contexte fait qu'on est noyé dans toute une somme d'informations très immédiates. C'est très difficile de démêler le faux du vrai et surtout d'éviter des amalgames. Et je crois aujourd'hui que, malheureusement, les droits de l'homme, en tout cas l'information au public des droits de l'homme, est particulièrement malmenée.
S'agissant du milieu associatif qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, est-il suffisamment informé du cadre juridique, à votre avis, ou est-ce qu'il y a parfois confusion entre la dimension politique des droits et le droit au sens propre du terme ?
Alors, à ma connaissance, bon, c'est une excellente question. Tout dépend d'abord de l'association, avant tout. Mais en ce qui concerne, en tout cas, à ma connaissance, les associations, par exemple, qui viennent en aide aux étrangers, entre guillemets, notamment à Strasbourg, il y en a nombreuses. Il y a une très bonne connaissance du cadre juridique, déjà national, pour aider les personnes qui sont dans une situation de particulière vulnérabilité, que ce soit au titre de leur droit au séjour sur le territoire national ou bien de leur demande d'asile, c'est majoritairement le cas. Donc il y a un véritable travail juridique, une très bonne connaissance du cadre juridique national. Après, sur le cadre international et européen, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que les associations recrutent des juristes, hein, qui sont donc formés, mais qui n'ont pas toujours les connaissances, effectivement, en droit européen et international. Parce que là, on est dans un cadre peut-être encore plus technique ou moins fréquent de saisine que devant les juridictions administratives, par exemple.
Ok. Vous êtes diplômé de l'Institut international des droits de l'homme. Quelle est la mission de cet institut ?
Alors, c'est un institut qui est rattaché à la Fondation René Cassin, dont le directeur est un professeur de droit international des droits de l'homme, qui est Sébastien Touzé, et qui avait également aussi été dirigé, qui est toujours d'ailleurs dirigé par Jean-Paul Costin, ancien juge français à la Cour européenne des droits de l'homme. Cet institut participe à la promotion des droits de l'homme, aussi bien pour les professionnels du droit, donc professionnels, juristes d'ONG, des étudiants également, qui peuvent s'inscrire à cet institut pour décrocher un diplôme qu'on appelle le diplôme universitaire de la clinique des droits de l'homme, qui vise à placer les étudiants dans des situations vraiment pratico-pratiques, des mises en situation de traitement de dossiers réels dont pourrait connaître la Cour européenne des droits de l'homme ou d'autres organes de protection internationaux des droits de l'homme. Ça, c'est une des missions des instituts, mais c'est aussi la formation donc des professionnels, notamment en France, hein, les avocats, les magistrats, mais aussi à l'étranger et particulièrement sur le territoire africain.
Si vous voulez bien, je veux parler de l'actualité. En 2019, vous avez écrit sur la situation du bateau Sea-Watch, à bord duquel se trouvaient 47 migrants. Aujourd'hui, une situation similaire fait la une de l'actualité avec le Ocean Viking. Dans quelle mesure ces deux situations sont-elles comparables du point de vue juridique ?
Alors, ces deux situations sont comparables d'un point de vue juridique sur le fait que des personnes se trouvent sur un bateau, sollicitent l'aide d'un État concerné et qui rejettent cette aide, en tout cas cette assistance. Dans le cas de l'Ocean Viking, ce sont des États qui se sont renvoyés la balle, hein, si on peut le résumer ainsi, en tout cas c'est schématique, mais c'est ça. Finalement, les personnes ont pu débarquer à Toulon. Pour le Sea-Watch, c'était plus compliqué en 2019 parce qu'il y avait véritablement un rejet. Les personnes sont restées bloquées sur le navire. Et ce qui m'avait interpellé, c'est qu'il y avait eu une demande de mesures provisoires auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a fait droit à cette demande de mesures provisoires de la part des ONG, en tout cas, qui soutenaient les demandeurs d'asile sur ce bateau. Mais c'était une mesure provisoire qui était insuffisante. Elle permettait à tout le moins qu'il y ait une assistance alimentaire et sanitaire, mais les personnes ne pouvaient pas débarquer. Voilà, c'était ça. Donc ça m'avait paru être une décision, une réponse de la Cour européenne des droits de l'homme assez incomplète par rapport à l'urgence de la situation. Et là, on voit bien encore une fois qu'avec l'Ocean Viking, on est sur une situation extrêmement complexe où, encore une fois, les États se renvoient la responsabilité de la prise en charge de ces demandeurs d'asile, de ces personnes qui sont en exil. Et c'est une véritable problématique en matière de responsabilité, de droits de l'homme. Nul doute que dans certaines situations bien particulières, parmi ces 200 personnes qui se trouvaient sur le navire Ocean Viking, il y a peut-être, bien qu'il y ait eu débarquement et accueil, il y aura peut-être des violations prévisibles de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce cas-là, évidemment, la Cour restera vigilante quant aux éventuelles requêtes qui pourront être formulées devant elle.
Des voix contestent la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris à l'Assemblée nationale. Où en est-on aujourd'hui du sentiment de légitimité de la Cour dans le discours politique ?
Alors, c'est vrai que cette contestation de la Cour européenne des droits de l'homme, elle existe depuis longtemps. Moi, j'ai souvenir d'une vive contestation en 2015, notamment, par certains députés de l'Assemblée nationale, députés français, qui avaient schématiquement affirmé la chose suivante, selon laquelle la Cour européenne des droits de l'homme défendrait les terroristes. Voilà, c'était un petit peu l'idée qui était véhiculée. Ce mouvement de contestation, c'est un mouvement, en réalité, de responsables politiques qui méconnaissent totalement le fonctionnement de l'institution et son objectif. Et peut-être même davantage qui piétinent les acquis suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est ça, vraiment, l'idée, en tout cas, de contestation, elle aboutit à ça, à contester véritablement un progrès était pour les États européens. Bon, c'est une méconnaissance, clairement, de l'institution, qui avait abouti d'ailleurs en 2015 à ce que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même et toute son unité de la presse a se déplacé à l'Assemblée nationale pour, dans le cadre d'une commission parlementaire. Le président de l'époque, qui était Dean Spielmann, je m'en souviens très bien, s'était déplacé lui aussi à la Cour européenne des droits de l'homme pour reprendre avec les députés les missions de la Cour, réexpliquer, faire œuvre de pédagogie, parce qu'il y avait une véritable méconnaissance. Eh bien, figurez-vous que dans cette commission parlementaire, les députés qui étaient les plus critiques étaient totalement absents, donc n'étaient même pas venus se renseigner. Donc ce sont des critiques qui existent encore, qui parfois sont même relayées par certains prétendus juristes en droit international des droits de l'homme, c'est là où c'est le plus inquiétant, se fondent aussi sur une critique beaucoup plus globale que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, mais sur une attaque, par exemple, directe à l'encontre de grands donateurs d'ONG comme Human Rights Watch, et on pense immédiatement à George Soros, qui est aussi l'un des grands donateurs de l'Open Society Justice Initiative, qui est une grande ONG qui forme des juristes et des avocats, qui travaillent dans le domaine des requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est très inquiétant parce qu'on voit revenir des monstres, j'ai envie de le dire comme ça, intellectuellement, sur un volet intellectuel, enfin si on peut parler comme ça, sur un volet pseudo-juridique, alors que toutes les tentatives de contestation de la Cour européenne des droits de l'homme sont manifestement erronées, en passant en premier lieu par l'indépendance des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Naturellement, la procédure de désignation des juges est totalement indépendante. Les juristes qui travaillent au sein des divisions à la Cour européenne des droits de l'homme sont recrutés par voie de concours. Donc, y a une totale indépendance de l'institution. Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner. Et puis après, sur le fonctionnement, on a un organe qui est objectif et qui, s'il y a lieu de condamner les États, les condamne sur le fondement d'une jurisprudence qui est établie depuis des années et sur des sujets tout à fait divers, aussi divers et variés, que la liberté religieuse, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, la liberté d'expression. Et une jurisprudence qui est construite aussi sur des considérations qui se fondent sur la marge d'appréciation des États. Donc la marge d'appréciation des États est bien prise en compte par la Cour européenne des droits de l'homme, sachant aussi que la Cour est très attentive sur certains sujets peut-être plus politiques, peut-être plus sociétaux, au consensus des États membres de la Convention européenne des droits de l'homme sur certaines questions, par exemple sur l'euthanasie. S'il n'y a pas de consensus des États membres sur cette question, alors le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, contrôle de violation de la Convention, sera beaucoup plus large, sera beaucoup plus souple. S'il y a en revanche consensus sur une question, là, le contrôle de la Cour sera beaucoup plus strict. Donc on tient compte, bien entendu, des politiques internes, et c'est tout à fait naturel, parce que si la Cour ne procédait pas ainsi, elle perdrait tous ses membres à la Convention.
Okay. Si vous voulez bien, je voudrais parler de la recevabilité devant la Cour. Alors, statistique étonnante, 97%... soit la quasi-totalité des requêtes adressées à la Cour sont rejetées pour des raisons procédurales. Comment est-ce possible?
Alors c'est possible, là encore, avec une difficulté encore de mes connaissances de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a été victime de son succès. Comme son nom l'indique, c'est une Cour des droits de l'homme. Néanmoins, ça reste une juridiction internationale qui n'est que subsidiaire. C'est-à-dire que les premières juridictions à devoir appliquer la Convention européenne des droits de l'homme sont les juridictions nationales. Et c'est là où se trouve la difficulté, c'est qu'il faut, et c'est mon rôle d'avocat, et surtout en tant qu'avocat à titre de conseil, que d'expliquer à mes clients que la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une cour d'appel européenne. Et qu'il y a des conditions de recevabilité très strictes à remplir, notamment de forme, qui ont été renforcées depuis une réforme de 2010, parce que la Cour était littéralement noyée de requêtes, submergée de requêtes. Il y avait à l'époque plus de 140 000 requêtes par an. Là, on est revenu, avec la réforme sur la recevabilité de 2010, à un nombre un peu plus raisonnable, mais qui reste important, à peu près 60 000 requêtes annuelles, ce qui permet à la Cour de traiter son arriéré. Donc, ce taux d'irrecevabilité de 97%, c'est surtout le non-respect des règles de recevabilité et cette confusion de la part des requérants de considérer finalement qu'on va à la Cour européenne des droits de l'homme comme si on présentait une plainte devant une juridiction nationale ou comme si on allait se plaindre des décisions des juridictions nationales devant une cour d'appel européenne. Or, ce n'est pas ça du tout. Il y a des conditions très strictes. Il faut d'abord une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut l'avoir invoquée dans les juridictions nationales, être allé devant toutes les juridictions nationales, en tout cas la dernière juridiction suprême. Donc, et puis, respecter des conditions de délai, des conditions de forme très strictes. Donc ce non-respect des conditions engendre la majorité des irrecevabilités rendues, des décisions d'irrecevabilité rendues par la Cour. Donc c'est une méconnaissance de la part des requérants. Et c'est pour ça que l'avocat est finalement, même s'il n'est pas obligatoire au stade de la requête à la Cour européenne des droits de l'homme, il est quand même indispensable de se rapprocher d'un avocat pour avoir conseil avant d'engager une requête à la Cour.
Quel est le rôle du Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans ce type de procédure?
Alors, son rôle, il est presque identique à celui de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un organe international, lui aussi, de protection des droits de l'homme, sauf que lui, c'est un organe de protection, c'est le traité qui va changer, des droits de l'homme au stade des Nations Unies. Il va essentiellement se fonder pour rendre ses décisions de constatation, et je vous expliquerai plus tard la nuance avec les arrêts de la Cour, sur le pacte. Lui, il va se fonder sur le pacte international des droits civils et politiques, qui est l'équivalent de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, le pacte international des droits civils et politiques garantit les mêmes droits, les mêmes garanties que la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, on peut le saisir de toute plainte contre un État parti au pacte international des droits civils et politiques et qui a ratifié aussi le protocole facultatif à ce pacte, reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, il n'y a pas de conditions de délai, il faut un délai raisonnable, des conditions également de forme beaucoup plus souples que la Cour européenne des droits de l'homme, mais on est à peu près sur la même procédure, globalement. Seule grosse différence, c'est que les décisions rendues par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'ont pas de force contraignante, à la différence des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, alors que le comité des droits de l'homme des Nations Unies rend des décisions de constatation qui ne sont pas contraignantes, qui n'ont pas de valeur obligatoire. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Lambert, certaines personnalités politiques avaient contesté la décision provisoire qui avait été rendue par le comité des droits de l'homme des Nations Unies, et en expliquant que c'était pas obligatoire, donc qu'il fallait pas s'y conformer. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est pas parce que la décision du comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas de force contraignante qu'il ne faut pas s'y conformer. Au contraire, en revanche, la force, c'est la force diplomatique, hein, d'une décision de violation d'un État, une violation du pacte international des droits civils et politiques, parce que nécessairement, ce constat de violation va aboutir à être évoqué lors de l'examen périodique universel. Et donc, ça fait un peu tâche pour l'État qui est concerné. Donc, il y a toutes les raisons pour l'État qui est visé par une violation constaté par le comité des droits de l'homme des Nations Unies de respecter cela. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai un dossier qui est en cours contre la Tunisie au comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et depuis qu'on a saisi le comité, la Tunisie, de manière assez étonnante, a procédé à des enquêtes sur les violations qu'on alléguait dans le cas particulier donc de la famille que je défendais. Et une procédure d'instruction en France a enfin été, en tout cas une commission rogatoire internationale a enfin été lancée, alors que les faits dataient de 2014-2015. Là seulement, voilà, on a depuis l'année dernière, depuis que le comité des droits de l'homme a été saisi en 2019, les États se réveillent et vraiment font quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a une contrainte quand même de la part du fait de cette saisine du comité. Contrainte plus diplomatique. Mais néanmoins, le comité rend des décisions très juridiques. Très juridiques. Parfois même, sur certains sujets, à mon avis, plus juridiques que la Cour européenne des droits de l'homme. Notamment sur la décision de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Il y a eu une comparaison, exactement les mêmes affaires, en tout cas des affaires tout à fait similaires, devant la Cour et devant le comité. Et là, je dois dire, à la lecture de la décision du comité, qu'on a une appréciation plus juridique par le comité des droits de l'homme de cette question, qui a abouti à une solution tout à fait différente de celle de la Cour, alors que la Cour européenne des droits de l'homme a eu, mais de par cette marge d'appréciation des États, un raisonnement un peu moins juridique, avec une notion de vivre ensemble qui n'est pas juridique du tout. Donc c'est intéressant de voir vraiment sur le plan juridique ces différences, mais globalement elles ont les mêmes missions. Et c'est intéressant d'avoir cette complémentarité, en tout cas du comité des droits de l'homme, parce que quand on peut rien faire au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on est quand même content en tant qu'avocat de trouver le comité des droits de l'homme des Nations Unies.
Vous avez parlé de droits des étrangers et les associations qui travaillent. Est-ce que les ONG peuvent aussi avoir une recevabilité pour porter des affaires devant la Cour?
Oui, tout à fait, à condition de remplir certaines conditions et notamment un intérêt à agir. Il faut que dans les statuts de l'association, il y ait véritablement une condition, en tout cas qu'on retrouve de qualité d'intérêt à agir pour se prévaloir du statut de victime, pour porter en qualité d'ONG une requête à la Cour européenne des droits de l'homme contre un État membre. Bon, ça pourrait être, par exemple, imaginons, sur une question de liberté d'association. Mais elles peuvent aussi, si elles n'ont pas de qualité, en tout cas d'intérêt à agir en tant que qualité de victime, intervenir dans une procédure particulière qui est la tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que si un requérant particulier, on va imaginer un demandeur d'asile, était soutenu dans ses démarches par une association, une ONG, fait une requête à la Cour européenne des droits de l'homme avec son avocat, ce que j'ai fait il y a récemment pour un mineur non accompagné étranger, eh bien, il peut y avoir, l'association qui l'a accompagné peut demander l'autorisation au président de la Cour européenne des droits de l'homme d'intervenir en qualité de tierce partie pour émettre des observations sans toutefois prendre parti dans l'affaire. Il faut que cette tierce intervention apporte en réalité des éléments factuels et juridiques objectifs à la faire pour qu'elle soit pertinente. Donc il faut quand même rester objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre parti en étant tiers intervenant. Mais par exemple, vous avez très souvent le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, qui se constitue, en tout cas, si on peut le dire comme ça, tiers intervenant devant la Cour européenne des droits de l'homme dans différentes affaires sur différents sujets, et notamment en matière de discrimination.
Dernière question. Quelle est l'affaire sur laquelle vous avez travaillé à la Cour qui vous a le plus marqué ?
Alors, l'affaire sur laquelle j'avais travaillé à la Cour qui m'avait le plus marqué, c'était une affaire, quand j'étais en visite d'études, de violences policières. Je crois de mémoire que c'était un arrêt tout bâche contre France, voilà, c'est ça. Et c'était d'autant plus marquant que peu de temps après, lorsque j'ai eu l'une de mes premières affaires à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un cas de violence policière, une affaire Bourrasque contre France où malheureusement on a eu 5 ans de combats juridiques, mais il y a eu un arrêt de non-violation. Donc c'était une grande tristesse pour la famille et moi-même, hein, bien sûr aussi, puisqu'on s'était beaucoup investi. Mais oui, ça m'a beaucoup marqué, bien sûr. Ce sont des questions qui sont à la fois passionnante juridiquement, mais en même temps très, très intense sur le plan émotionnel, parce que quelqu'un est mort, est décédé, et souvent dans des circonstances qui sont tragiques, en fait.
Et je crois que vous avez eu gain de cause dans l'affaire Castellani.
Alors, moi, Castellani, c'est pas moi. Hein. Je suis pas intervenu dans l'affaire Castellani. Voilà. Mais j'ai eu une décision favorable de violation dans une affaire contre la France en matière de placement en rétention d'un mineur étranger avec ses parents. Voilà, donc ça c'était une belle victoire. Et là, bon, on attend, il y a une autre affaire concernant un mineur non accompagné étranger. Donc voilà, là c'est terminé, normalement la procédure est terminée, donc on attend la décision. Voilà, mais je crois que la plus grosse déception, c'était effectivement cette affaire Bourrasque contre France. À titre personnel, j'y croyais vraiment. Je pense que il y avait des raisons qui pouvaient aboutir à une violation, mais la Cour en a décidé autrement, et en plus à l'unanimité, donc c'est indiscutable. C'est indiscutable. Mais ça a été une grande déception, parce que quand on est avocat, on s'implique à 200% dans un dossier. Et on n'a pas toute une équipe derrière nous, on est seul. On cherche tous les détails et on connaît sur le bout des doigts le dossier. Donc c'est difficile de lire quelque part un arrêt qui aboutit à une non-violation et qui nous paraît, en tout cas pour nous, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'a fait la Cour, hein, mais nous paraît avoir oublié certaines choses, certaines circonstances.
Ok, on vous souhaite plein de réussite dans la défense de vos clients pour l'avenir. Et je vous remercie d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
On va finir sur une petite note musicale, Somewhere Over the Rainbow.